Vous écoutez On lit pour vous.
Consommation, le marché de l'occasion explose. Un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 29 mai 2024 dans le magazine Québec Science. Le marché de l'occasion est en pleine ébullition, poussé par l'inflation et les valeurs environnementales des jeunes générations. Mirage d'une consommation plus responsable ou signe d'un véritable changement de paradigme? D'aussi loin qu'elle se souvienne, Jérémy Dussault-Lefebvre n'a pratiquement jamais rien acheté de neuf. Le seconde main a toujours fait partie de ma vie et de mes considérations, relate l'architecte dans la jeune trentaine. Elle tient cette habitude de sa mère, qui a toujours privilégié ce type d'achat. Je lui dois beaucoup, elle était avant-gardiste. Au-delà des économies réalisées et de la réduction de son empreinte environnementale, Jérémy se réjouit d'avoir trouvé un mode de consommation en phase avec ses valeurs sociales. En plus d'acheter des biens d'occasion, elle effectue des dons et pratique aussi le troc. J'aime que tout n'est pas une étiquette financière, c'est super humain comme façon de consommer. De plus en plus de gens adoptent des comportements semblables. Parmi la majorité de Québécois et Québécoises qui mentionnent avoir réduit leur consommation dans la dernière année, 43,5% achètent des produits d'occasion, selon le plus récent baromètre de l'Observatoire de la consommation responsable, publié en novembre 2023. Au Canada, une personne sur trois achète un bien d'occasion au minimum une fois par mois, révèle un coup de sonde mené par le service de paiement en ligne PayPal en juin 2023. Toutefois, selon des spécialistes, ces rares données récentes sur la consommation des biens d'occasion au pays sous-estimeraient l'ampleur du phénomène. En réalité, c'est beaucoup plus élevé. Les gens ne se voient pas toujours comme des consommateurs de seconde main, car ce sont des comportements très en marge de la société de consommation, soutient Myriam Hertz, professeure de marketing et responsable du laboratoire de recherche sur les nouvelles formes de consommation, Labo NFC, de l'Université du Québec à Chicoutimi, UQAC. Dans la plus récente édition de l'indice annuel Kijiji, publié par l'Observatoire de la consommation responsable en 2019, on évaluait à 78% la proportion de gens au Québec qui participent à l'économie des biens d'occasion. La croissance de ce phénomène est mondiale. Le marché international de ce type de biens devrait doubler d'ici 2027 pour atteindre une valeur de 475,5 milliards de dollars, rapporte la 11e édition de TradeUp, une étude annuelle menée par la plateforme de revente du même nom en partenariat avec la société d'analyse de données Global Data. Dans ce rapport, qui tient lieu de référence dans l'industrie de la mode, on apprend que le tiers des vêtements achetés au cours de la dernière année dans le monde était d'occasion, et que le seconde main représente désormais 10% du marché mondial des vêtements. La crise financière de 2008 et l'émergence des plateformes de revente en ligne comme Kijiji sont à la source de cette tendance. Ces deux événements fondamentaux ont permis d'augmenter la portée des marchés de seconde main à des niveaux sans précédent, analyse Myriam Hertz. Le contexte économique défavorable des dernières années a donné un nouveau souffle au mouvement, incitant les consommateurs et consommatrices à mieux réfléchir à leurs achats. Même avant la crise inflationniste, la motivation majeure à l'achat et à la vente de seconde main a toujours été la dimension économique, soutient Fabien Durif, cofondateur et directeur de l'Observatoire de la consommation responsable, affilié à l'Université du Québec à Montréal. La plus récente édition de leur baromètre, consacrée au coût de la vie, confirme ces dires, 92,4% de la population québécoise ayant réduit sa consommation en 2023, attribue la décision d'acheter usagé à la hausse des prix. Bientôt des articles d'occasion à l'épicerie? au cours des prochaines années. Ne vous étonnez pas de voir apparaître des rayons de produits d'occasion dans les magasins à grande surface ou même les épiceries. Le phénomène est déjà bien implanté en Europe, notamment en France, où on peut acheter toutes sortes de biens de ce type tant dans les supermarchés que dans les magasins chics, comme le Printemps ou les Galeries Lafayette. Ça marche aussi très bien en Scandinavie, affirme Fabien Durif, qui a profité d'une année sabbatique en 2023 pour observer le phénomène sur le terrain. Selon le directeur de l'Observatoire de la consommation responsable, le Québec et l'Amérique du Nord accusent un retard énorme dans ce domaine. Un avis partagé par sa collègue de l'UQAC, Myriam Hertz, qui prédit que la tendance se développera chez nous. À terme, quand elles vont voir que leurs ventes de produits neufs chutent considérablement, car le public se tourne de plus en plus vers les achats d'occasion, les enseignes d'ici vont s'y mettre aussi. Elles voudront leur part du gâteau en proposant, elles aussi, des produits de seconde main. La génération Z mène le bal. Les jeunes de la génération Z, nés entre 1997 et 2012, sont en tête de la clientèle de biens d'occasion. Selon le rapport TradeUp, 64% des Z magasinent d'abord un article désiré dans le marché de l'occasion avant de se tourner vers le neuf, et jusqu'à 82% considèrent la valeur de revente d'un bien avant de l'acheter. C'est le cas de Catherine Van Derby d'Ottawa. Quand j'étais petite, ma mère m'emmenait au village des valeurs pour acheter les vêtements de mes poupées. J'ai donc commencé à magasiner du seconde main avant même de savoir ce que c'était, se souvient-elle. À l'âge adulte, elle a maintenu cette habitude pour être en accord avec ses valeurs environnementales. Comme 9 personnes sur 10 de la génération Z, Catherine croit que les entreprises ont des responsabilités sociales et environnementales, selon ce que rapporte une étude du cabinet de conseil en stratégie McKinsey et compagnie. L'environnement est désormais à l'avant-plan de tous nos gestes en société, parce qu'on est face à une crise climatique, rappelle celle qui a déposé en 2023 à l'Université Carleton un mémoire de maîtrise sur les motivations de la clientèle de vêtements d'occasion. Dans le cadre de sa recherche menée auprès de 39 Canadiens et Canadiennes des générations Y et Z, elle a constaté, avec surprise, que les jeunes adultes achètent des biens ayant déjà servi à d'autres plus par souci éthique et écologique qu'économique. Ce résultat s'explique notamment par la sensibilisation de ces générations à la protection de l'environnement depuis leur enfance. L'univers des jeunes d'aujourd'hui est différent de celui qu'ont connu leurs aînés, confirme la chercheuse Myriam Hertz. Ils sont relativement à cheval sur les valeurs écologiques parce qu'on leur en parle depuis l'école primaire et même la garderie. Selon la professeure à l'UQAC, les idéaux de la jeunesse, peu importe leur génération, jouent aussi un rôle dans cet engagement fort. Habituellement, les jeunes sont aux études et n'ont pas encore trop de responsabilités. Ils ont de grandes valeurs qui tendent à s'estomper quand ils passent à une autre étape de leur vie, notamment lorsqu'ils lancent leur carrière et fondent une famille. Vous écoutez « Consommation, le marché de l'occasion explose », un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 29 mai 2024 dans le magazine Québec Science. Bonheur d'occasion. L'industrie de la mode est reconnue pour être une des plus polluantes de la planète. Chaque année, plus de 100 milliards de pièces de vêtements sont produites dans le monde, principalement par des compagnies de fast fashion, mode rapide. Ce secteur émet autant de gaz à effet de serre que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni combinés, selon l'étude de McKinsey et compagnie. La mode consomme aussi énormément de ressources. Il faut 10 000 litres d'eau pour produire un seul jean. Pour redorer leur réputation et répondre aux exigences élevées en matière de transparence des jeunes générations, des dizaines de marques établies, dont 88 seulement en 2022, ont flairé la tendance et pris le train en marche en développant leur propre plateforme de revente de vêtements d'occasion. Parmi elles, American Eagle, Patagonia, Lululemon, H&M, Canada Goose et Levi's. Au Québec, une petite poignée de détaillants leur ont emboîté le pas, notamment Souris, Mini et Simons. Simple geste de bonne conscience ou occasion lucrative? Un peu des deux. Premièrement, ces enseignes font de l'argent. Deuxièmement, ça leur apporte une certaine fidélité, observe Fabien Durif, précisant que les vêtements, les chaussures et les accessoires sont la catégorie de produits qui s'échangent le plus dans le marché de l'occasion. Selon lui, les commerces ont tout à gagner en intégrant des biens de ce type dans leur offre. À cet égard, selon le rapport TradeUp, parmi les entreprises qui offrent des articles d'occasion, 2 sur 3 affirment que cette revente fait désormais partie intégrante de leur stratégie de croissance et 82% estiment que la revente leur générera un retour sur investissement positif. Fini l'époque où les achats d'occasion étaient stigmatisés, car associés à un faible revenu. Les articles d'occasion sont désormais prisés par des gens de toutes les bourses, car ils permettent également de se démarquer avec des biens originaux. L'offre s'est considérablement sophistiquée. Davantage de boutiques de seconde main se sont orientées vers des clientèles particulières, notamment fortunées. Par exemple, avec le vintage et le rétro haut de gamme. Ces clientèles veulent se distinguer, avance la chercheuse Myriam Hertz, en laissant échapper un petit rire. Ça rend tout ce marché très désirable, parce que ça devient très glamour. Au point que même la jeune sensation pop Olivia Rodrigo fait la promotion des biens d'occasion en s'associant avec la plateforme de revente Depop, où elle vend pour une œuvre de charité des vêtements et des accessoires portés dans ses vidéoclips ou lors de ses tournées. Cette quête d'originalité s'étend à l'ensemble de la population. Selon l'étude TradeUp, 56% des personnes appartenant aux générations Y et Z préfèrent avoir un look qui se démarque plutôt que de se plier aux dernières tendances. Pas étonnant ainsi que le caractère unique des biens d'occasion se trouve au 3e rang des motifs d'achat des jeunes adultes, dont la recherche de Catherine Van Der Bee. C'est aussi une facette de ce marché qui stimule Jérémy Dussault-Lefebvre. Il y a beaucoup de gratification dans le fait de trouver des choses uniques, remarque-t-elle. On finit par développer des rapports différents avec ces objets parce qu'ils sont le fruit de rencontres imprévues. De la poudre aux yeux? Acheter et porter des vêtements d'occasion réduit en moyenne de 25% nos émissions de carbone, indique TradeUp, puisque ce mode de consommation ne requiert pas d'extraction de ressources ni de production polluante. Mais est-ce suffisant pour améliorer son empreinte environnementale globale? Rien n'est moins sûr, car les économies réalisées en achetant d'occasion sont la plupart du temps dépensées dans des biens de consommation neufs. Dans les faits, cela revient souvent à un moyen de continuer à consommer et à surconsommer à moindre coût, constate Myriam Hertz. Cet effet rebond fait en sorte que ce n'est pas si écologique au bout du compte. D'autant plus que le marché de l'occasion est tributaire du neuf. On ne peut pas faire circuler des produits à l'infini, poursuit la chercheuse. Si des millions de personnes font des achats compulsifs dans le seconde main, par exemple, ça met de la pression sur ces réseaux qui auront besoin de davantage de produits neufs. Pour consommer de façon plus responsable, il faudrait aussi mettre en place des outils qui permettraient de mesurer l'impact de nos comportements. En tant que consommateur, on veut faire de bons choix, mais on n'a pas l'information, déplore Fabien Durif. Par exemple, il n'y a pas d'étiquette environnementale ici qui évalue l'empreinte d'un bien de consommation, comme c'est le cas pour beaucoup de produits en France. pour consommer de façon durable. L'idéal est, dans tous les cas, de tendre vers la sobriété. Pour être responsable, la consommation de biens d'occasion devrait tendre vers une circularité mettant également en avant la réparation, la réutilisation et le reconditionnement des produits. C'est ce que met en pratique Jérémy Dussault-Lefebvre, selon qui chaque geste compte. Faire avec ce qu'on a, prendre soin des objets et avoir une éthique sont vraiment des comportements à valoriser, croit l'architecte, lauréate l'an dernier d'une bourse résidence de la Fondation Grantham pour l'art et l'environnement. D'ailleurs, la jeune femme applique également le principe du réemploi dans sa pratique professionnelle. En effet, les articles les plus écologiques restent ceux qu'on ne se procure tout simplement pas. C'était « Consommation, le marché de l'occasion explose », un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 29 mai 2024 dans le magazine Québec Science.
Apprendre le français et le conserver. Un texte de Jacinthe Laforêt, paru le 22 mai 2024 dans La Voix acadienne de l'Île-du-Prince-Édouard. La plupart des participants au forum local « Le français pour l'avenir » sont inscrits dans des écoles françaises ou des programmes d'immersion. Ils sont chanceux. Moi, ayant grandi à Morel, où il n'y a pas de programme d'immersion, ce n'est qu'après mon secondaire que j'ai vraiment appris le français, avec le programme Explore. Je suis allée à l'Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, pendant 6 semaines. C'est comme ça que j'ai appris, dit Amber James, qui occupe aujourd'hui un poste bilingue à la Commission de la fonction publique de l'Île-du-Prince-Édouard. Après son été en français à Pointe-de-l'Église, Amber James a entrepris ses études en business à l'UPEI. J'ai pris un cours de français pendant que j'étais aux études, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler au gouvernement provincial que j'ai pu prendre plus de cours, entre autres, avec le Collège de Lille, dit Amber James. Elle a encouragé les jeunes qu'elle a rencontrés au forum local du Français pour l'avenir à poursuivre en français autant que possible et de considérer une carrière dans un poste bilingue. Addison Boyle, de l'école Stone Park, a bien aimé la journée. « On a fait des choses qu'on ne fait pas à l'école. C'était intéressant. Je pense que je vais toujours chercher des emplois où je peux utiliser mon français. Peut-être dans le domaine de l'aviation, comme pilote d'avion. » considère-t-elle. Rodney Robinson, en 12e année à l'école secondaire de Kensington, a participé à 2 ateliers, celui sur les jeunes et la politique et celui sur le collège communautaire du Nouveau-Brunswick. C'était amusant. L'année prochaine, je sais déjà que je m'en vais à Brock University en Ontario pour étudier dans la gestion du sport. Je pense que je vais conserver mon français toute ma vie, parce que je trouve que c'est important, dit le jeune homme. L'atelier sur la politique et les jeunes, auquel Rodney a participé, était animé par Frida Schneider. Âgée de 19 ans, elle a participé en 2023 au Forum national des jeunes ambassadeurs à Halifax et elle voulait continuer à s'impliquer. Les organisateurs du Forum de Charlottetown lui ont confié un atelier qui a été très apprécié. C'était « Apprendre le français et le conserver », un texte de Jacinthe Laforêt paru le 22 mai 2024 dans « La Voix acadienne » de l'Île-du-Prince-Édouard.
Mouvement de passage et danse de l'intérieur en CHSLD. Un texte de Caroline Montpetit paru le 3 juillet 2024 dans Le Devoir. Dans le salon du CHSLD Nicolet, une dame parmi d'autres est prostrée dans son fauteuil roulant, immobile, sa tête figée dans une position inclinée, ses bras raides repliés sur eux-mêmes. La danseuse Ariane Boulet s'approche d'elle, s'accroupit à ses côtés pour capter son regard. Ses doigts s'animent en une danse minuscule. Les yeux de la vieille dame se remplissent de joie et d'intérêt. Un sourire se dessine sur son visage. Lorsque la danseuse s'éloigne, le sourire reste longtemps sur ses traits détendus, apaisés. Un peu plus loin, Ariane Boulet répond au discours décousu d'une autre dame avec des gestes, des sons, des grimaces. La dame pouffe de rire et s'engage dans cette conversation insolite. Durant de longues minutes, les deux femmes se regardent dans un échange qu'elles seules semblent comprendre. Cette dame parle souvent très fort et dérange les autres, raconte Cynthia Martin, technicienne en loisirs de l'établissement. Aujourd'hui, la danse la rend plus calme. L'équipe de mouvement de passage, projet créé il y a 10 ans par Ariane Boulet pour intervenir par la danse dans les CHSLD, ne donne pas un spectacle. Par des sons et des gestes, du plus petit au plus grand, elle tente de raviver l'essence de ces personnes en perte d'autonomie ou en fin de vie pour faire naître le contact. Et les résultats, tout de suite, sur place, sont impressionnants. Chercher des portes. Ces échanges se font par le langage non verbal, même si l'équipe répond volontiers lorsque les résidents lui parlent. On cherche des portes dans le corps, explique Ariane Boulet, cofondatrice de la compagnie de danse Le Radeau. Ces portes sur l'autre, elles peuvent se trouver dans les yeux, dans une main. Alors qu'Ariane l'accompagne, une résidente tente de nombreuses fois de se lever, en vain. Son corps ne la soutient plus. « Je me suis accroupie, puis j'ai juste tendu ma main, qu'elle a mise dans sa main. Puis on a eu une danse très subtile de micro-mouvements. » Dans un corridor, un homme reçoit Ariane. Georges-Nicolas Tremblay, le danseur qui l'accompagne, et Marie Vallée, la musicienne. « Vous êtes les premières personnes que je vois de la journée », s'écrie-t-il avec enthousiasme. Il se joint aux artistes en une procession festive que rejoignent bientôt d'autres résidents. « Cette dame adore danser », dit Cynthia Martin au sujet d'une résidente qui suit le cortège avec énergie. Son fils m'a dit qu'elle avait découvert la danse ici. Si je la fais danser, elle peut continuer durant 20 minutes. Étonnamment, c'est aux étages où sont rassemblées les personnes qui ont le plus de troubles neurocognitifs que l'impact de la danse est le plus puissant, remarque Georges-Nicolas. Ceux qui sont encore entièrement là, qui sont cohérents, se laissent moins aller, constate-t-il. On est un des seuls projets qui rejoignent les personnes non-verbales, qui ont des troubles neurocognitifs majeurs, poursuit Ariane. Depuis 10 ans, avec le projet Mouvement de passage, Ariane Boulet et son équipe distribuent leurs gestes improvisés aux aînés très fragiles des CHSLD du Québec. Bien qu'elle ait effectué une maîtrise en création en milieu de soins, Ariane Boulet ne se considère pas comme une art-thérapeute. Tout se passe d'ailleurs de façon improvisée et les artistes ne sont pas informés du dossier de santé des résidents. Pourtant, l'intervention est manifestement puissamment positive. C'est préférable qu'on ne connaisse pas les diagnostics, qu'on ne connaisse pas les histoires de vie. C'est très bien, parce que ça nous permet vraiment de travailler dans l'invisible. Dans le présent, maintenant, poursuit Ariane. L'invisible, c'est ce quelque chose qui existe, mais qu'on ne voit pas nécessairement. Ça nous arrive beaucoup. On le voit, des changements de posture, des regards francs. Des fois, c'est énorme, un regard franc. Les membres qui se déplient et des crises de larmes, souvent. À partir d'un cri. Parmi les expériences les plus marquantes de ces interventions avec mouvement de passage, Ariane se souvient d'une femme qui hurlait sans arrêt depuis 2 jours, lui avait-on dit. Un des danseurs d'origine, David Rancourt, s'est mis à incarner le cri de la dame physiquement. Je trouvais ça magnifique, mais une partie de moi était très apeurée. On ne voulait pas augmenter le malaise. Quelques minutes après, je vois Marie qui arrive, qui prend le cri comme tonalité, puis qui se met à harmoniser en chantant. Ça a duré 20-25 minutes et ça a été long. La personne continuait de crier. Ça faisait 2 jours. Après 25 minutes, ses cris se sont transformés en rire. Le lendemain, le personnel m'a appelé pour me dire qu'elle avait arrêté de crier après notre intervention. Ça a été un moment très touchant pour nous. Georges Nicolas Tremblay évoque ce moment passé en silence avec une dame qui était très nerveuse. Elle était assise toute seule. J'ai commencé en reproduisant un peu les mouvements nerveux de ses mains qui se tortillaient. Puis, je faisais un peu l'inverse, tranquillement. On a commencé à danser ensemble et sa nervosité est tranquillement devenue un apaisement à travers le corps, dit-il. Un jour, Marie Vallée a approché son kalimba d'une dame. Elle a fermé ses yeux et c'est devenu une danse. Je partais de l'intérieur. Elle suivait chaque note et était en symbiose totale avec la musique. C'était très touchant parce que ça venait d'elle. Il y a quelque chose qui a émergé, raconte-t-elle. Toute la pratique se déploie autour de l'écoute du résident, explique Ariane Boulet. Au fil des ans, Mouvement de passage a fait des petits. J'ai reçu beaucoup de demandes de CHSLD et j'ai décidé d'honorer ça, dit-elle. L'équipe a donc développé un guide pédagogique et une formation de 15 heures qu'elle donne un peu partout dans la province. Lors de ces formations, on parle évidemment de la démarche artistique, mais aussi de l'éthique, des éthiques de la vulnérabilité, explique-t-elle. On aborde aussi toute la question des symptômes de la démence, les enjeux sanitaires des CHSLD, les enjeux liés aux chutes. On travaille l'approche, la posture, le ton de voix, le regard, le toucher. Puis les questions du consentement sont abordées. Marie transmet aux nouveaux musiciens des éléments aussi sur l'approche, sur la façon de travailler avec les sons que font les résidents. Quand l'équipe quitte le CHSLD Nicolet, quelque chose a changé derrière elle. Un sourire flottant sur un visage, une âme détendue après avoir dansé, un corps reconnaissant d'avoir été touché, le temps d'un instant. C'était Mouvement de passage et danse de l'intérieur en CHSLD. Un texte de Caroline Montpetit paru le 3 juillet 2024 dans Le Devoir.